Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour à tous. Nos enfants regardent de plus en plus la télévision. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Médiamétrie en février dernier. Les jeunes Français passent plus de 3 heures par jour devant leur petit écran quand la télévision n'est pas leur principale distraction. Par ailleurs, et c'est un fait marquant de notre société, la violence en milieu scolaire est en constante augmentation, comme l'a montré le rapport Debardieu. Des jeux curieux ont fait leur apparition dans les cours de récréation, le jeu du foulard ou le jeu du CRS qui consiste à donner des coups à un camarade sans raison particulière. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de diaboliser le petit écran, mais il semble intéressant peut-être de s'interroger sur la manière dont la télé conçoit ses programmes et la perception qu'en ont les plus jeunes, mais aussi leurs aînés. La télévision alimente-t-elle l'insécurité sociale? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec nos invités. Geneviève Guichenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice des programmes de l'ensemble des chaînes de France Télévisions depuis 98.
Je viens de terminer mes deux mandats, je l'ai été pendant 6 ans et je viens de passer le témoin, la médiation continue.
D'accord, en tout cas c'était une mission que vous avez confiée Marc Tessier. Vous êtes donc une interlocutrice privilégiée de la manière dont fonctionne la télévision en France. À vos côtés, je suis ravie d'accueillir Serge Tisseron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et auteur d'un livre « Enfants sous influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents ?» publié aux éditions 10-18. Alors aujourd'hui, la fiction policière occupe une bonne place dans la grille des programmes des chaînes hertziennes. Est-ce qu'il y a une raison économique à cela, Geneviève Guichenet ?
Oui, parce que c'est considéré, enfin là je répète, parce que je n'ai pas de compétences particulières, ne faisant pas moi-même de fiction policière, c'est un moyen commode d'arriver à pénétrer toutes sortes de milieux, toutes sortes de situations, sans avoir besoin d'exposer, de dire « Ah voilà, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui se passe ici et là. »
Comme je viens de le faire.
Et le crime est une façon pratique d'entrer immédiatement dans une situation de crise, parce qu'après, on va essayer de reconstituer. Et au fond, on peut reconstituer ce qu'on veut. Si on trouve très rapidement le coupable, la longueur de la fiction va dépendre de la facilité avec laquelle on va résoudre l'énigme. Donc on peut jouer en accordéon et bon. C'est aussi ce qui, semble-t-il, s'exporte le mieux. Néanmoins, je remarque en les regardant que les fictions portent la marque du pays dont elles sont originaires. Il n'y a rien de commun, me semble-t-il, entre Navarro, je prends un exemple sur une chaîne privée, Derrick, ou l'inspecteur britannique. C'est Derrick est terriblement allemand, l'autre inspecteur est terriblement britannique et Navarro est terriblement français. Donc, ce qui est plus problématique selon moi, c'est la prolifération des fictions américaines en particulier, pour leur effet de dépaysement. Ce n'est pas, je ne veux pas faire de l'anti-américanisme primaire, je veux dire que j'évacue immédiatement cette critique. Simplement, je crois qu'à multiplier les références d'ailleurs, cette espèce d'exotisme imposé à longueur d'après-midi en particulier, je crois que dans ce système de représentation qu'est la télévision, je pense que nous y reviendrons au cours de l'émission, il est ennuyeux de ne jamais s'y retrouver.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison de coût pour la télévision, puisque en fait, l'achat d'une fiction coûte moins cher que
oui,
la production d'une
oui.
émission de
sûrement,
plateau.
Sûrement, mais il y a des émissions de plateau qui ne coûtent pas cher non plus. On pourrait. Il y a toute une conception du téléspectateur et de le téléspectateur, ce qui est absurde parce qu'il y a des téléspectateurs, mais sur ce que on lui offre, on fait semblant d'être dans une demande, ce qui n'est pas vrai, car la télévision hertzienne est une télévision de l'offre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une quantité de téléspectateurs qu'on passe littéralement par profits et pertes. Et je trouve ça un élément d'insécurité sociale. On pourra raffiner un peu là-dessus tout à l'heure.
Alors, quand on analyse le contenu justement de ces fictions, le téléspectateur visionne parfois jusqu'à 10 scènes de violence par heure. C'est en tout cas ce qui ressortait de l'étude sur les effets de la violence médiatique sur les enfants, étude qui avait été réalisée par l'UNESCO en 1998. D'autres études ont montré que ces images provoquaient des effets physiologiques immédiats. Lesquels, Serge Tisseron ?
Les effets que provoquerait tout stress émotionnel important. Si vous regardez un dessin animé plaisant et que tout d'un coup il y a un pétard qui explose derrière vous, vous avez un accroissement de votre rythme cardiaque, une montée de votre adrénaline, une respiration accélérée, et puis vous vous demandez ce qui se passe et vous ne retombez sur vos pieds que quand vous avez compris ce qui est arrivé. Eh bien, les spectacles qui juxtaposent des scènes de violence provoquent le même effet chez le spectateur. Et vous voyez que si je prends la comparaison avec le pétard, on pourrait dire aussi une porte qui claque ou une fenêtre qui claque, c'est plus banal. Si je prends cette comparaison, c'est pour montrer que ce qui va être important à partir de ce moment-là, c'est la manière dont le spectateur va donner du sens, va pouvoir ou non donner du sens à cette séquence qu'il a émotionnellement bouleversée. Il ne faut pas en rester au choc émotionnel, parce que nous sommes des êtres humains et que ce qui caractérise l'être humain, c'est quand il est émotionnellement ému, eh bien, il cherche à donner du sens à ce qui lui est arrivé, éventuellement en cherchant dans sa mémoire, mais aussi en parlant autour de lui, en posant des questions. Et vous voyez que tout de suite, on arrive à l'idée qu'il n'y a jamais un spectateur et des images, mais il y a toujours un spectateur, des images, et puis bien sûr, son environnement, proche ou lointain, sa famille, ses copains, si c'est un enfant, et on va être amené justement à parler de tous ces éléments, et pas seulement des images.
Alors justement, la fréquence des scènes violentes est une chose, mais ce qui me paraît intéressant, c'est aussi le contenu de ces scènes, notamment dans la manière dont elles sont filmées aujourd'hui, alors que dans les années 80, un truand s'effondrait après avoir reçu une balle dans le corps. Aujourd'hui, on ne se contente plus de cela. On voit le projectile sortir au ralenti du pistolet. Après, on suit sa trajectoire avant d'assister à une effusion de sang. Donc, quelles sont les raisons de cet hyper-réalisme, de cette surenchère émotionnelle à la télévision qui n'apporte pas réellement de valeur supplémentaire à la narration, Geneviève Guichenet ?
Je ne sais pas dire pourquoi. D'abord, d'un pays à l'autre, ça varie parce que... Puis il y a des modes de réalisation. Le ralenti, au contraire, des ellipses. En France, on a la réputation que quand on monte dans une voiture, on ouvre la portière, on s'assied et on referme la portière et on démarre. Ça fait rire beaucoup des réalisateurs anglais, par exemple, ou américains, parce qu'une fois qu'on s'approche de la voiture, on peut retrouver le type au volant après. Voilà, on est, en somme, bavard avec l'image, mais... je ne sais pas, peut-être aussi on gagne du temps, hein, ça ne coûte pas plus cher. Et ce luxe de détail, je ne sais pas, Serge Tisseron sans doute pourrait en dire davantage sur ce que ça fait.
Il viendra après.
Oui. Moi, c'est pas tellement ça qui me préoccupe, parce que je sens bien que vous évoquez le nombre de scènes violentes. Un jour, un réalisateur m'a dit « Oui, mais à combien de scènes d'amour un enfant a-t-il assisté aussi ?» Et on est absolument obsédé par les coups de poing. Mais je trouve que on ferait bien de regarder à côté des coups de poing, parce qu'il se passe aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et je pense que les scènes en particulier... les scènes d'amour à des heures où les enfants sont devant l'écran, je pense que ça, c'est pas simple pour les tout petits enfants. Et on a l'air de trouver ça tout à fait normal dans des feuilletons dans lesquels ça n'ajoute rien. Le ralenti de la balle, je n'en sais rien, mais bon, à partir du moment où un pistolet est sorti ou un truand va tomber, d'abord c'est un truand, c'est un monsieur méchant et qui a mal agi, donc la morale est sauve là. En revanche, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à décoder un certain nombre de choses. Je suis frappée par la campagne actuelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'instance de régulation française, française qui dit « Vos enfants ne voient pas la même chose que vous ». C'est vrai, là je soumets mon point de vue à Serge Tisseron, néanmoins je pense que le problème vient du fait que vos enfants voient la même chose que vous. C'est là que ça coince, et parce que les enfants et les adultes n'ont pas à regarder la même chose. Alors qu'ils le vivent, qu'ils le ressentent différemment, ça me paraît évident, mais je ne comprends pas que des adultes ne se disent pas, ne se demandent pas si on peut à chaque moment tout montrer tout le temps. Et la télévision, elle a la particularité d'être au cœur des foyers, c'est-à-dire qu'elle est accessible simplement en appuyant sur un bouton. Et il faudrait quand même se poser des questions sur ce que l'on met comme ça à la disposition des gens. Et je crois que on leur fait beaucoup de mal en donnant l'impression que, juste ou pas d'ailleurs, les gens de télévision ne se demandent pas tous les matins en se levant ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour nuire dans la journée. Néanmoins, beaucoup de téléspectateurs, dont j'ai été l'interlocutrice pendant 6 ans et qui voient bien ce qui se passe, ont l'impression qu'on ne fait pas attention à eux. C'est ça l'impression principale qu'ils retirent de ce qui se passe sur les écrans.
Oui, sur cette nouvelle esthétique, il faut aussi évoquer quand même l'arrivée de codes culturels différents, en particulier venus des pays orientaux, et la décomposition d'une action avec plusieurs plans successifs qui montrent la même action vue par en dessus, vue par en dessous, à droite, à gauche, au ralenti. Tout ça, c'est l'esthétique du manga. Et l'esthétique de la bande dessinée, aujourd'hui, je constate qu'elle est très importante chez des jeunes réalisateurs, au cinéma, à la télévision, et elle crée de nouveaux codes dans lesquels les jeunes se retrouvent assez vite et dans lesquels les gens de plus de 50 ans, disons, ont de la peine à se retrouver. Un film comme Doberman, par exemple, est un film qui a été incendié par les critiques comme un film fasciste. Et c'est vrai que si on s'en tient au récit de l'action, c'est abominable. Mais quand on voit le film, je suis allé le voir quand même pour me faire une opinion personnelle, quand on voit le film, on voit une bande dessinée animée qui n'est crédible à aucun moment. Or, les jeunes qui allaient voir ce film étaient très sensibles à l'aspect BD. Ils étaient contents de retrouver l'atmosphère des BD, mais ça bougeait pour de vrai, si on peut dire. Alors que les gens d'âge mûr étaient plus sensibles à l'aspect contenu narratif. Donc, vous voyez, il y a là de nouveaux codes culturels dont il est important de prendre la dimension. La même chose avec Kill Bill, où il y a un côté bande dessinée qui est insupportable si, justement, on essaye de raconter les choses, parce que là, on est dans la narration, vous voyez, on n'est plus dans la figuration BD. Alors, une autre chose importante également qu'a évoqué Geneviève Guichenet, le fait que les enfants ne voient pas la même chose que nous, bon, on pourra prendre le slogan du CSA, mais les adultes ne voient pas non plus la même chose que les enfants, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas plus fragiles, a priori, que les adultes, mais ils ont une perception différente des choses. On voit ça. Moi, je vois beaucoup j'interviens dans des classes autour des actualités télévisées, des enfants grands, des enfants plus petits, et on s'aperçoit que les mêmes actualités peuvent bouleverser un adolescent ou un jeune adulte, par exemple, parce qu'on y voit un soldat qui tue en temps réel, si on peut dire, un personnage qui meurt réellement sur l'écran pendant le temps de la séquence, alors qu'un enfant tout petit ne sera pas du tout bouleversé par ça, parce que ça ne lui parle pas, il n'a pas de repère, mais il pourrait être bouleversé par une chaussure écrasée, par une voiture ou par une poupée abandonnée dans les décombres. Et vous voyez, l'enfant n'est pas plus fragile, mais il réagit autrement à d'autres choses. Donc, puisqu'on évoque la campagne du CSA, je pense que le slogan est juste, mais que malheureusement, il est accompagné d'un visuel qui va orienter les parents vers une interprétation univoque, à savoir que leurs enfants seraient plus fragiles qu'eux et qu'il faudrait les protéger. Mais les enfants sont différents, les enfants ne sont pas des adultes en réduction. Ils ont une manière à eux de réagir et des émissions comme celle-ci sont importantes pour sensibiliser les parents à cela. Et puis je voudrais dire encore une troisième chose, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est problématique dans le cinéma, la télévision, c'est l'apparition d'un type nouveau de personnages qu'on ne voyait pas jusque-là. Et ça, c'est beaucoup plus grave que le changement de code narratif. Ces nouveaux personnages, c'est ce qu'on pourrait appeler en psy des criminels pervers. C'est-à-dire des gens dont la principale source de plaisir est de faire souffrir les autres, de leur faire des coups pendables, de les assassiner de manière horrible. Alors, il arrive que les criminels pervers soient mis en scène d'une façon absolument pas crédible. C'est les histoires d'Hannibal le cannibale. Je veux dire, Hannibal le cannibale, personne n'a voulu imiter ce qu'il fait parce que, de toute façon, l'impression, il fait des choses tellement extraordinaires et dans un climat tellement étrange que jamais personne n'aura réuni toutes les conditions pour faire comme lui. Donc il y a des criminels pervers comme Hannibal le Cannibal qui sont mis en scène de telle façon qu'il y a une distance entre le spectateur et eux, hein, c'est la distance de tous les événements un peu hors normes dans lesquels le héros évolue, mais vous avez malheureusement des criminels pervers qui évoluent dans un environnement quotidien, c'est le cas des films Scream qui mettent en scène criminels pervers dans un environnement où tout adolescent peut reconnaître son école, son quartier, même sa famille, et ça ce sont des personnages, des héros extrêmement dangereux, parce que vous voyez qu'ils brouillent les repères et ils peuvent donner l'impression à des enfants que faire souffrir, ça fait du bien. Ça alors fait pas du bien à celui qui souffre, mais ça fait du bien à celui qui fait souffrir.
Justement, alors de regarder toujours ce même type de film avec un scénario quasi identique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation de la violence et une sorte de désensibilisation des jeunes dans justement le fait d'assister toujours à ces mêmes scènes de violence, Serge Tisseron ?
Alors le mot de sensibilisation, en effet, a été introduit par les Américains pour désigner le fait que peut-être certains jeunes, à force de voir des images violentes à la télévision, finiraient par ne plus éprouver grand-chose à cette violence et, en s'habituant à la violence à la télévision, ils pourraient s'habituer à la violence pour de vrai s'ils la voyaient autour d'eux. Alors en revanche, on s'aperçoit quand même que les choses sont plus compliquées. Je crois que ce qui est déterminant, c'est pas le fait qu'un enfant voit beaucoup de scènes de violence à la télévision, parce qu'on s'aperçoit que tous ne réagissent pas de la même manière. Ce qui est important, c'est la manière dont l'environnement réagit. Dire si les parents, si les grands frères ou sœurs manifestent des émotions, manifestent leur dégoût face à certaines scènes, l'enfant petit ne s'y habituera jamais, parce qu'il continuera à rester sensible à ses émotions. Le drame, c'est que lorsqu'un enfant voit ses spectacles avec des adultes qui semblent ne rien éprouver, ce qui est malheureusement souvent le cas, eh bien l'enfant se fait à l'idée, se fabrique l'idée qu'être grand, c'est être capable de voir des choses horribles sans rien éprouver. Donc vous voyez, il n'y a pas désensibilisation de façon automatique, parce qu'on voit beaucoup de violence, mais il y a en quelque sorte, effort de l'enfant sur lui-même pour se désensibiliser dans la mesure où il a l'impression que les adultes ne réagissent pas. C'est pour ça que je dis toujours que le principal conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de montrer leurs émotions face aux écrans. Au cinéma, c'est difficile parce que si on manifeste, les gens disent « chut, taisez-vous, laissez-nous tranquilles ». Mais devant la télévision, il faut absolument manifester ses émotions pour que nos enfants grandissent en intériorisant l'idée qu'être grand, c'est montrer ses émotions parce que c'est normal d'éprouver du dégoût, de l'horreur face à ce qu'on voit aux actualités ou dans les fictions.
On marque une courte pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Thank you.
Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission consacrée donc à la violence à la télévision et aux conséquences sur les jeunes en particulier, Geneviève Guichenet.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait à l'instant Serge Tisseron. Je crois que dans cette focalisation sur la violence à l'état pur, il y a une part de la mauvaise conscience des adultes. Je pense que le phénomène est assez compliqué de la part des institutions. C'est vrai que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est mal à l'aise de ne pouvoir rien dire et rien faire face à la violence, face aux scènes violentes de la télévision, car rien dans la loi, qui est le seul instrument dont il dispose pour intervenir contre les chaînes, rien dans la loi ne les aide vraiment à lutter contre, et enfin ce serait compliqué du moins. Pour ma part, je fais une distinction importante entre ce qui est violent et ce qui fait violence. Et je crois que le problème à la télévision, c'est ce qui fait violence. Et ce qui fait violence, la télévision, elle maîtrise ses conditions de fabrication, ses conditions de production, ses conditions de diffusion. Elle ne maîtrise d'aucune manière les conditions de réception. Et c'est là que tout se passe. Dans quelles conditions sont-ils? De quelle humeur sont-ils? Ce qui concerne les enfants, sont-ils seuls, pas seuls? Et qui les accompagne? Ce qui me frappait dans ce que Serge Tisseron racontait là à l'instant, je me disais finalement, les enfants pensent aussi que jamais on ne raconte de jolies histoires. Que penserait-on de parents qui ne raconteraient que des histoires horribles à leurs enfants? Et des histoires où il y a plus ou moins réparation. Et on invente, j'ai l'impression finalement en l'écoutant, je me disais, les personnages pervers là qui alimentent tout un tas de fictions, ce sont des loups-garous. On a réinventé une forme de loups-garous, mais il y aurait plus que ça, que des histoires de loups-garous. Et on a quand même des surprises. Par exemple, je suis allée dans une école à Fresnes et une petite fille a dit, moi je n'aime pas le Loft, la première émission de télé-réalité en France. C'est trop regarder dans la vie des gens. 8 ans. Et quand je suis venue, elle a poursuivi là-dessus. Et je voyais bien cette petite fille, vous savez, cet air inquiet que peut avoir un enfant comme ça, là. Et elle voulait me dire quelque chose. La télévision est rangée très normalement par les téléspectateurs au rang des institutions. Et cette petite fille, à un moment donné, a dit, moi je voudrais reparler du Loft, parce que, vous comprenez, me dit-elle, il ne faudrait pas qu'on vienne filmer chez nous après. Et on la sentait terrifiée devant cette institution qui se croit tout permis, jusque et y compris d'aller filmer, comme elle dit, chez nous, et on avait l'impression, contre leur gré. Donc, l'idée, et je reprends complètement l'idée de Serge Tisseron, qui est que là, la campagne saine du CSA, on voit bien qu'il y a tout d'un coup un geste de bonne volonté au fond d'une institution qui se préoccupe. Et je pense que pour les téléspectateurs, c'est agréable de savoir que quelqu'un s'inquiète et se préoccupe. Néanmoins, je trouve ennuyeux que finalement, les adultes du coup soient tout d'un coup mis dans la situation d'être eux-mêmes des veilleurs pour faire attention, pour protéger leurs enfants contre la télévision. Et eux-mêmes alors. Parce que finalement, ils ne sont pas mieux lotis que les enfants. Simplement, là, tout d'un coup, on a un relais très pratique. On va dire aux parents, ah, dites donc, il faut quand même surveiller vos enfants. Et on a envie de dire à la télévision, attendez, est-ce que vous pourriez surveiller ce que vous mettez à l'antenne, s'il vous plaît?
Alors justement, vous me permettez une très bonne transition. Partons d'un exemple très concret de programmation. Vous disiez tout à l'heure, Geneviève Guichenet, que la télé maîtrisait ce qu'elle diffusait. Alors, on prend l'exemple d'M6, samedi soir dernier. Voilà ce que propose la chaîne à 20h30. En prime time, le téléspectateur est invité à regarder la série Dead Zone, dont le titre résume déjà lui seul le contenu violent de cette fiction américaine. À 23h25, c'est au tour de la série Les Chemins de l'Étrange d'être diffusée, donc là, rien de spécial à signaler. Mais par contre, vers 1h, c'est-à-dire à peu près là où va s'achever cette soirée, on a une autre série américaine qui s'appelle Hunted, qui veut dire en anglais égaré, celui qui est perdu. Donc, est-ce que la télé, en programmant jusqu'à 3 fictions de ce type en une soirée, ne participe pas, d'une certaine manière, presque volontairement, à une surenchère sensationnelle, Geneviève Guichenet ?
Je suis partagée là-dessus, parce que là, je trouve qu'on annonce terriblement la couleur et on sait très bien quel public ça vise. Moi, je me souviens, étudiante, je n'aimais pas ça parce que ça me terrorisait, mais mes camarades adoraient aller voir des films d'horreur et on tremblait. Moi, c'est vrai que ça me faisait peur et je n'aimais pas, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Le public jeune...
Là, c'est
ce qu'il va voir.
C'est violent. Hein.
Oui, mais je crois qu'il est...
On tue, on assassine, on traque.
Oui, oui, hunted, c'est aussi chassé. Donc, moi, je pense à d'autres formes, pardon, mais je pense à d'autres formes de violence très, très, très pernicieuses. Et le thème de l'émission, c'est l'insécurité sociale. Et je crois qu'il y a quelque chose qui fait terriblement violence aux téléspectateurs. C'est, par exemple... Reprenons cet exemple du loft. Maintenant, il y a quasiment prescription depuis le temps. Et d'autant que cette forme de télé-réalité est quasiment abandonnée. Mais moi, je trouve qu'il y avait quelque chose de très moral au regard des valeurs que l'on veut bien partager actuellement dans la société française. Enfin, qui sont les valeurs dominantes, du moins. Je trouve que la hiérarchie sociale a été parfaitement respectée, que comme par hasard, ce sont ceux, en effet, auxquels on s'attendait qui ont été virés les premiers. Et dans l'engouement que la jeunesse a manifesté à l'égard de cette émission, moi, je l'ai regardée pour me faire une idée et je me suis surprise en train d'avoir peur pour les jeunes gens qui étaient là-dedans. Et je me suis dit, peut-être eux aussi ont peur de voir cette chair à canon cathodique qui assure le spectacle. Moi, si j'étais Loana, je ne jure pas que je ne serais pas allée dans le loft. Quand on vous fait miroiter, que tout d'un coup, il va se passer quelque chose dans votre vie.
Bien sûr.
J'interdis
bien
à qui que ce soit de mépriser cette jeune femme. On lui a donné une possibilité de le faire. Et voilà. Mais du coup, ils ont pris une forme de risque en y allant. C'est pas des enfants de cœur non plus, hein, parce qu'il faut avoir un culot de tous les diables pour aller là-dedans, mais aussi une forme de désespoir. Je crois que c'est très très mélangé. Et là, moi je pose la question de ça. Ça, c'est une autre forme de violence, et je pense que l'insécurité sociale, elle vient bien plus de la violence symbolique, c'est-à-dire en effet des risques qui sont pris ou que l'on fait prendre à certains individus. Quelle impression cela leur donne-t-il ? Qu'est-ce que cela leur fait ? Quand je lis, par exemple, sous la plume d'un jeune homme, ce qui m'a surpris, c'est qu'il flippait avec les mecs de quartier. Entre parenthèses, comme quoi les médias font bien leur boulot. C'est pas de la violence symbolique, ça, et c'est pas, et ça, oui. C'est pas de l'insécurité sociale.
Bien
ce
sûr.
Garçon au service militaire passe son temps à raconter qu'il était étiqueté mec de quartier. Et qu'il y a eu des moments où ça lui a fourni certains avantages, parce qu'il y en avait qui avaient la trouille. Et il n'a rien fait pour les démentir, alors que lui, personnellement, n'est pas violent. Mais il est arrivé là-dedans, venant de la banlieue lyonnaise, il était dans le Midi, et il a vu qu'on avait peur de lui.
Restons d'ailleurs sur l'exemple de France Télévisions. L'année dernière, Jean-Claude Alanic, le médiateur de l'information pour France 2, avec lequel vous avez eu l'occasion de travailler, Geneviève Guichenet, mentionnait dans son rapport annuel adressé à Marc Tessier, le président de France Télévisions, les critiques les plus fréquentes des téléspectateurs. Et parmi elles, ils étaient nombreux à regretter l'importance réservée aux faits divers et aux images violentes dans les JT. Quelles sont les raisons de ce choix éditorial ? Parce qu'il s'agit bien d'un choix éditorial, quoi qu'en disent les journalistes, Geneviève Guichenet.
La télévision n'échappe pas à son époque. Là, je crois qu'on n'a pas fini d'explorer ce qui se passe. Et simplement, ce que l'on peut constater, c'est que tout le monde souffre. En ce moment, tout le monde souffre.
Oui.
Globalement, les enquêtes montrent que les téléspectateurs sont mécontents de la télévision. Et c'est intéressant qu'ils le disent comme ça. Parce que dans le même temps, la télévision a tendance à dire « Oui, mais moi, je m'en fiche, ils regardent. » Donc, le hiatus, c'est entre le fait que précisément, ils regardent quand même et qu'ils souffrent de ce qu'ils voient. Moi, je pense, mais ça c'est une analyse très personnelle, que la démocratie recule, que l'on ne met pas en perspective les événements, qu'on est dans ce que j'appellerais la télévision du plexus, qu'on passe son temps à donner des émotions violentes aux téléspectateurs. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a des moments où on est complètement suffoqué. Dans la hiérarchie de ce que les téléspectateurs avaient trouvé violent à la télévision, il y avait le Proche-Orient, et ensuite la fermeture d'une usine dans le Nord.
Et oui.
Et alors là, les journalistes ont regardé ça en disant mais attendez, je comprends pas très bien. Il y a eu des bagarres, il y a eu une intervention de la police. Ah non, il y a rien eu. Ah bon, et ils trouvent ça violent. Oui, oui, les téléspectateurs trouvent violent de rayer 2000 personnes de la carte.
Très intéressant.
Oui, c'est très intéressant.
Oui.
Et je crois qu'il y a tout un tas de violences comme celles-là qui sont subies. Il y a non seulement l'excès des faits divers, parce qu'il y a façon et façon de raconter des faits divers. Il y a des faits divers qui apprennent des choses. Il y a une façon de les mettre en perspective et qui disent ce que cela dit de la nature humaine. Il y a non seulement l'abondance des faits divers, mais surtout la façon dont c'est traité.
Oui, tout à fait.
Et l'absence de représentation de tout un tas d'activités professionnels, d'activités de toutes sortes de ce pays. Et la vraie vie de ce pays ne se retrouve pas dans les journaux télévisés. Et je crois que ça, c'est de nature à désespérer complètement les téléspectateurs.
Alors moi, je suis d'accord avec vous. J'ai même l'impression que finalement, ces faits divers qui occupent toute la place, parfois 90% d'un journal télévisé, ce qui est quand même assez énorme, donnent une vision assez manichéenne, voire binaire des événements. Quelles sont les conséquences sur l'ouverture à l'autre, peut-être la notion d'altérité et de tolérance, Serge Tisseron?
Oui. D'abord, il faut quand même remarquer que lorsque une chaîne diminue la violence de ses programmes, comme ça a été le cas aux États-Unis, eh bien, elle tente à perdre des téléspectateurs qui se reportent sur des chaînes où il y a des programmes violents. Alors, est-ce que les gens cherchent la violence ou les émotions fortes? Ça, c'est une question intéressante parce que la télé-réalité est une forme de télévision qui impose de la violence aux candidats. C'est certain, cette violence ne passe pas par des coups, des tortures, mais ce sont quand même des formes de violence. C'est une télévision qui est quand même pas mal regardée et je crois que c'est une télévision qui est regardée parce que après leur journée de travail, qui est souvent monotone pour beaucoup de gens, eh bien, beaucoup de gens ont envie d'éprouver au moins pendant les deux dernières heures avant d'aller se coucher, des émotions un peu fortes, de la jouissance, de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse. Et donc, la télé-réalité, comme les fictions violentes, vont apporter au public ce content d'émotions. Alors, vous voyez, ce qui est en cause, ce n'est pas tellement ce qu'est la télévision, c'est ce qu'est l'organisation sociale.
Oui.
Si les gens ont un métier agréable, s'ils peuvent, pendant leur métier, communiquer, vivre leurs émotions, avoir une pause repas, parler avec leurs collègues, ne pas être soumis à la suspicion d'un chef, ou à une atmosphère de surveillance généralisée, eh bien, à ce moment-là, il est bien évident que les gens auront moins besoin de chercher ces émissions qui leur donnent leur content d'émotions, parce qu'ils les auront eues dans la journée, vous voyez. Donc, on ne peut pas séparer aujourd'hui les émotions recherchées par les téléspectateurs de la vie que mènent les téléspectateurs dans le reste de la journée. C'est pour ça que le grand capital qui produit à la fois les conditions de travail et la télévision a beau jeu de dire, nos émissions sont regardées, évidemment, puisqu'ils produisent les conditions sociale pour que les gens aient besoin de regarder ça après leur journée de travail. C'est extraordinairement pervers et on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Alors, la recherche de ces émotions importantes, intenses, ça ne va pas forcément provoquer une vision du monde dans laquelle on va se représenter soi-même comme un agresseur possible. Vous savez, beaucoup de recherches ont montré que, en effet, comme vous évoquiez, la conséquence principale de ces émissions violentes, ça va être une représentation binaire du monde. Il y a les agresseurs et les persécuteurs d'un côté, et puis il y a le gibier. Il y a les chasseurs d'un côté et le gibier de l'autre. Mmh. Alors, cette vision un peu binaire, cette vision centrée autour de la chasse, eh bien, va amener les téléspectateurs à parfois s'identifier à l'agresseur, donc les violents vont devenir plus violents, les agressifs vont devenir plus agressifs parce qu'ils vont sentir que leur violence est légitime, mais tous ceux qui se sentent en situation d'insécurité, c'est-à-dire les personnes âgées, les gens isolés, les gens qui ont le RMI, les gens qui vivent dans de mauvaises conditions, les enfants aussi, tous les gens qui se sentent en situation de fragilité, ils vont se sentir encore plus menacés. Donc vous voyez, il faut toujours avoir à l'esprit que le risque de se sentir agressé est finalement le vrai problème aujourd'hui de la télévision pour beaucoup de gens, beaucoup plus qu'une télévision qui rendrait agressif.
Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie. On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission consacrée à la violence à la télévision et aux effets donc sur le jeune public. Serge Tisseron, vous évoquiez à l'instant justement le fait que les images violentes pouvaient d'une certaine manière fragiliser ceux qui l'étaient déjà. Et ce qu'on dit peu, moi je trouve aussi à la télé, c'est que le reportage est le fruit quand même d'une vision personnelle. Souvent les journalistes se défendent en disant « nous, on reflète, nos reportages reflètent exactement le monde tel qu'il est ». Or, très souvent, c'est absolument pas le cas, puisqu'on sait qu'on choisit un angle et on choisit donc de développer cet angle. Cet angle est un choix personnel, donc c'est une vision subjective. Et justement, est-ce que certains chefs de service ne poussent pas à la télé, justement les reporters en particulier, à la surenchère d'images choc?
Je ne vis pas dans une rédaction, donc je ne me permettrai pas de dire ce qui s'y passe. Mais on sent aussi que beaucoup de journalistes ont anticipé et anticipent sur ce qu'ils croient qu'on attend d'eux. Le monde est moins insécuritaire, la société française en tout cas est moins insécuritaire qu'elle ne l'a été par le passé, ne sans compter en effet
d'époque médiévale.
Voyant les mystères de Paris, enfin vraiment, voilà, il est le nom des rues dans le centre de Paris, la rue de la Grande Truanderie, la rue Vide-Gousset, on sent qu'on ne s'y promenait pas quand même en toute sécurité, et on ne sortait pas le soir dès qu'il faisait nuit, en hiver les soirées étaient très longues. Non, moi j'ai été très frappé l'autre jour en voyant un documentaire qui va bientôt être diffusé sur France 2, des personnes âgées qui se barricadaient chez elles dans une cité difficile, et le journaliste dit « mais vous avez été agressée maintenant que vous mettez cette porte ?»« Non, non, dit la dame, moi non, jamais, et ça fait 30 ans qu'elle habite là. » Mais elle pense qu'elle pourrait. Et là, il y a une mission de l'État qui serait de prendre une sorte d'engagement. Et on peut remarquer au passage que lorsque, par exemple, on leur donne l'Odyssée de l'espèce, lorsqu'on leur donne Homo sapiens, lorsqu'on leur donne un certain nombre de programmes, ils sont là, ils les regardent et ils sont très contents.
Ouais. Donc, c'est un grand changement d'ailleurs, ça. C'est un changement notable à la télé, je trouve. Oui,
effectivement. Et là, l'audience est là, donc il faudrait savoir. On dit que les téléspectateurs ont un goût épouvantable, et il se trouve que quand on leur raconte en plus leur histoire, l'histoire
sûr,
de l'humanité, ça les passionne. Ah oui, ben voilà, on n'en tire pas
ceci dit, c'est pas une découverte nouvelle, parce que quand Alexandre Niouvski passait à l'ORTF, ou quand les Perses passaient à l'ORTF, il y avait aussi beaucoup de monde. Il y avait beaucoup moins de postes, mais ça n'a jamais servi de baromètre pour les gens qui font les programmes.
Les Perses est considéré comme une folie absolue.
Mais ça reste dans l'histoire de la télévision.
Ah oui, mais voilà, comme un symbole de quelque chose et d'une bonne intention. C'est ça qui est merveilleux.
Si vous me permettez, Serge Tisseron, je voulais juste vous poser une question à propos de certains psychologues qui pensent que les images violentes ont une vertu cathartique et qu'elles permettent notamment aux enfants de réaliser leurs fantasmes dans l'imaginaire. Qu'est-ce que vous pensez d'une...
Je pense que ce mot de cathartique est un piège et qu'il faudrait absolument le bannir du vocabulaire, surtout autour de la question de nos relations aux images. Alors pourquoi ? Parce que les événements qui sont regardés par les enfants concernent pas l'histoire de leurs ancêtres. Hein, ce sont des choses, des feuilletons américains ou japonais, peu importe, mais en tout cas ça ne renvoie en rien à l'histoire de la communauté. Il n'y a pas le peuple rassemblé puisque les enfants sont souvent tout seuls devant l'écran. Donc justement, tout ce qui concerne la catharsis au sens aristotélicien, c'est-à-dire de pouvoir vibrer avec les autres, ça n'existe pas, c'est la solitude face à l'écran. Puis troisième chose, les deux émotions qui étaient l'objet de la catharsis pour Aristote, la pitié et la crainte, eh bien, elles sont chassées des écrans au profit de quoi ? Au profit du dégoût, de l'hyperviolence, de l'agression perverse, de la jouissance à faire souffrir, donc toute chose qui était totalement absente du théâtre des tragiques grecs. Donc c'est une erreur totale de parler de catharsis.
Alors justement, autre point, et Geneviève Guichenet l'a en partie souligné tout à l'heure, la télévision donne une image très peu valorisante des jeunes, peut-être à l'exception de France 5 d'ailleurs. Et est-ce que vous ne pensez pas justement que une des solutions serait peut-être de diffuser des programmes valorisant les plus fragiles, ce qui diminuerait l'impact, parce qu'en fait on sait qu'il y a des jeunes en fait sont beaucoup plus fragilisés que d'autres, donc beaucoup plus susceptibles d'être violents. Est-ce que on a
ou de se sentir victime potentielle de violence, voilà, hein, il y a toujours les deux.
Voilà. Et est-ce que la télé ne pourrait pas parler de cette jeunesse-là qu'on caricature un peu trop souvent sous forme du délinquant qui est présenté au journal télévisé, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas donner une image beaucoup plus positive de ceux que la société met un peu de côté?
Oui, alors c'est le programme du héros positif. Hein. On a vu ça par rapport à la bande dessinée. On se pose maintenant la question autour de la télévision. Peut-être Geneviève Guichenet pourra nous évoquer ça autour des programmes. Moi, je crois que il y a quand même une autre cause d'insécurité à la télévision qu'on n'a pas évoquée. Il faut en dire quelques mots. Et cette cause-là, elle ne sera pas changée si on montre des héros positifs ou des actions positives à
alors
la télévision.
C'est
la confusion des genres. Ah. Aujourd'hui, la télévision n'est plus un flux dans lequel on peut à tout moment savoir précisément à quoi on a affaire. Vous savez, il y a encore 15 ans, il y avait des fenêtres d'actualité, des fenêtres de fiction, des fenêtres de publicité. Aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a des émissions de variété où on invite des personnages politiques, et c'est même pas pour les inviter à parler politique, c'est pour les inviter à parler de leur vie intime ou de faits divers. Il y a des actualités qui sont censées nous montrer du document, mais on sait maintenant qu'il y a des documents qui sont fabriqués, d'ailleurs même en images de synthèse, et puis on sait aussi qu'il y a parfois des hommes politiques qui mentent effrontément, comme autour des armes de destruction massive. Donc on nous présente pendant des jours et des jours des documents comme absolument fiables, produits par la CIA, puis on apprend un mois après que c'était des fictions. Oui. Donc confusion. Il y a la confusion dans la publicité. Ça, le CSA sait bien que la publicité s'immisce partout, que la publicité, c'est pas dans les fenêtres publicitaires. Oui.
Même dans le journal télévisé, d'ailleurs.
Même dans le journal télévisé, il y a des séquences de publicité cachées. Oui. Il y en a dans les fictions, il y en a partout. Donc aujourd'hui, on a affaire à une télévision où tous les genres sont brouillés. Et je crois que ce brouillage des genres contribue beaucoup à l'insécurité chez les petits, parce que les petits ont besoin de toujours savoir à quel genre ils ont affaire.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission consacrée donc à la violence à la télévision et aux conséquences sur les jeunes en particulier. En France, c'est le CSA qui s'occupe du respect de la loi. Il veille en tout cas à ce que justement les jeunes ne soient pas soumis à des images trop violentes à la télé. Et de l'aveu même de son président, donc Dominique Baudis, et vous l'aviez dit tout à l'heure, Geneviève Guichenet, les pouvoirs qui lui sont reconnus sont difficilement applicables. Les mises en demeure d'un programme sont interprétées un peu comme une censure contre les téléspectateurs. Quant aux contraintes financières, aux sanctions financières et pénales, elles sont inapplicables. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour contraindre un diffuseur à réviser sa copie, Geneviève Guichenet ?
D'abord, il y a plusieurs sortes de diffuseurs. Il y a les diffuseurs privés et les diffuseurs publics. Le diffuseur public, il a un rôle, il a une sorte de contrat. Le diffuseur public avec avec les téléspectateurs, le paiement de la redevance donne, et les téléspectateurs le vivent comme ça d'ailleurs, ils ont une attente à la hauteur de la contribution qu'ils ne refusent pas de faire d'ailleurs. S'ils l'évoquent dans leur courrier, c'est pour dire « je ne paie pas ma redevance pour voir ça ». Et moi, je me satisferais assez d'un actionnaire, entre guillemets, public, qui dirait « moi, je vais faire des choses vraiment différentes ». Or, à partir du moment où le financement est ce qu'il est, c'est-à-dire que les premières parties de soirée sont contraintes de faire de l'audience, et qu'il y a une interprétation de la dite audience, et que par ailleurs... C'est dans un ensemble de choses.
Alors peut-être que finalement la solution réside dans les actions d'éducation aux médias, Serge Tisseron.
Les actions du secteur associatif, je crois qu'il ne faut pas attendre Zorro hein, autour de la télévision, il ne faut pas attendre qu'un chef charismatique impose une refonte des programmes, ça n'arrivera jamais. Je veux dire, il faut cesser avec cette démagogie qui consiste à dire « votez pour moi, soutenez-moi et je vais changer la télévision ». Il faut arrêter avec ça. Il faut créer des actions associatives partout où c'est possible. Il y a par exemple au Canada, une éducation aux images formidable qui est faite par le secteur associatif. Ils n'ont pas attendu au Canada que l'éducation nationale ou la télévision ou je ne sais qui s'en empare. Ils le font eux-mêmes. Il faut aujourd'hui bricoler et notamment on a un outil pour ça, c'est Internet. Grâce à Internet, les gens qui font des choses peuvent le faire savoir. On a un autre outil, c'est des organismes associatifs qui s'intéressent aujourd'hui à l'éducation aux images. Il faut que partout, les parents qui ont envie que les choses bougent, rencontrent d'autres parents, changent leur attitude par rapport à leurs enfants, parce que malheureusement trop souvent, les parents voient leurs enfants comme des petites créatures fragiles à protéger, alors qu'autour des images, tout le monde est dans le même bain. Hein, nous baignons tous dans ce climat d'images quand même assez souvent délétère. Tout le monde est dans le même bain. Et puis, il faut dire et répéter aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce qu'un jeune regarde beaucoup la télévision et qu'il regarde beaucoup de programmes violents qu'il va devenir violent. Il y a un petit pourcentage de jeunes qui regardent beaucoup de programmes violents qu'ils deviennent. Mais ce n'est pas que la faute des programmes violents, c'est encore la faute aussi de leur environnement familial, des conditions socio-économiques, de beaucoup de choses. Donc il ne faut pas que les parents baissent les bras, il ne faut pas que les parents disent « la télé, elle est plus forte que nous ». Ça, c'est une démission et il n'y a aucune raison aujourd'hui de démissionner. L'important, ce n'est pas du côté de la production, on n'a pratiquement pas de pouvoir, c'est du côté de la réception. Il faut vraiment travailler aujourd'hui le plus possible la réception.
Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission.
Très courte.
Très courte, Geneviève Guichenet. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent saisir les médiateurs de France Télévisions à propos des programmes et du journal télévisé. Quelle est l'adresse de du site de France Télévisions, Geneviève
Sur le
Guichenet
site internet www.france2 ou France 3 ou France5.fr. Et là, il se laisse guider, des liens.
Merci pour cette précision et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous recommande la lecture du livre de Serge Tisseron, Enfants sous influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents, publié aux éditions 10-18, ainsi que l'ouvrage de Jean Cluzel, Téléviolence, publié chez Plomb.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.